Sébastien Roch. Deuxième partie, chapitre 1. On était au premier jour de juillet 1870. Cette journée-là, le ciel d'abord nuageux et menaçant au matin, s'était vers midi tout à fait rasséréné. Un clair soleil inondait la campagne. Sébastien sortit de chez lui, traversa le bourg et entra au bureau de poste chez Madame Lecotel. Le bureau était fermé de midi à 2 heures. Ordinairement, Madame Lecotel profitait de ce congé quotidien pour se promener un peu avec sa fille lorsque le temps était beau. Quelques minutes après, tous les trois, ils descendirent la rue de Paris et gagnèrent les Champs. Sébastien avait 20 ans. Il avait beaucoup grandi, mais il était resté maigre et pâle. Son dos se voûtait légèrement, sa marche devenait lente, indolente même. Ses yeux conservaient un bel éclat d'intelligence qui souvent se voilait, s'éteignait dans quelque chose de vitreux. À la franchise ancienne de son regard se mêlait maintenant de la méfiance et une sorte d'inquiétude louche qui mettait comme une pointe de lâcheté dans la douceur triste qu'il répandait autour de lui. Un peu de barbe tardive parsemait son menton et ses joues. Ses lèvres commençaient seulement à changer leur duvet clair en moustache blonde, d'une blondeur ardente et dorée. À le voir passer, on eût dit qu'il fût là, toujours. Il semblait que ses membres, aux os trop longs, lui fussent pesants à porter et à traîner. Ils s'engagèrent dans un petit chemin encaissé, profond, tout verdoyant, qui mène vers les coteaux de Saint-Jacques. Sur les hauts talus de chaque côté, les trognes de chêne, cachées par les touffes de bourdaine et de viorne, poussaient obliquement leurs branches qui, se rejoignant, faisaient sur le chemin une ombre fraîche, pailletée de soleil. « Eh bien, dit Madame Lecotel, avez-vous travaillé un peu ces jours-ci ? » « J'ai voulu semer des fleurs dans le jardin, répondit Sébastien, des fleurs que m'avait données le père Vincent. Mais mon père me l'a défendu. Vous savez qu'il déteste les fleurs. Il dit que ça prend de la place et que ça ne sert à rien. Alors, je suis parti dans le bois et j'ai rêvé.
Et c'est tout ?
Mon Dieu, oui. J'aurais bien lu, mais je n'ai plus de livres.
Comme vous devez vous ennuyer.
Pas trop, non, pas trop. Je vois, je pense, et le temps passe. Hier, par exemple, toute la journée, j'ai regardé un nid de fourmis. Vous ne pouvez vous imaginer combien c'est beau et mystérieux, du moins pour moi qui ne sais rien. Il y a là une vie extraordinaire, une énorme histoire sociale qu'il serait autrement intéressant d'apprendre que les luttes de la République athénienne. Tenez, c'est encore une des 1000 choses dont on ne souffle mot dans les collèges. Madame Lecotel prit un ton de reproche naturel. « Tout cela est très joli, mon pauvre Sébastien, mais vous ne pouvez pas continuer cette existence-là. Vous n'êtes plus un enfant, voyons. Dans le pays où l'on vous aime pourtant, on chuchote, on commence à mal parler de vous. Je vous assure, il faut vous décider à faire quelque chose. Croyez-moi. »
« C'est vrai. »
soupira Sébastien qui, la tête basse, cheminait, frappant les herbes du talus du bout de son bâton. « Mais que voulez-vous que je fasse ? Je n'ai de goût à rien. » Et Madame Lecotel gémit.
« C'est désolant, c'est désolant. Un grand garçon comme vous, si paresseux. »
« Je ne suis pas paresseux, je vous jure, » protesta Sébastien. « Je voudrais bien. Mais quoi ? Dites-moi quoi, vous ? Je vous l'ai déjà dit combien de fois ? Et je vous le répète, je ne vois pour vous qu'un seul moyen de sortir de la situation où vous vous embourbez de jour en jour. C'est le métier militaire. Intelligent comme vous l'êtes, vous aurez vite conquis un grade sérieux. Mon mari s'était engagé. À 26 ans, il était capitaine. À 42 ans, général. Sébastien eut une grimace significative. Être soldat, ah Dieu, non! C'est ce dont j'ai le plus horreur. J'aimerais mieux mendier mon pain sur les grandes routes. Un peu piquée, Madame Lecotel répliqua. C'est peut-être ce qui vous attend, mon pauvre Sébastien. Ils se turent. Le chemin montait caillouteux et raide. Madame Lecotel ralentit le pas. Marguerite n'avait pas prononcé une parole. Elle marchait, svelte, souple, mince, tout à fait charmante, dans sa robe très simple de toile écrue, serrée à la taille par un ruban rouge, et son grand chapeau de paille, orné aussi de rubans rouges, projetait sur son visage au teint chaud une ombre transparente et dorée. Ses yeux étaient restés, jeune fille, ce qu'ils étaient enfants, des yeux d'une beauté inquiétante et maladive, pervers et candide, étonné et chercheur, étrangement ouvert sur la vie sensuelle par deux lueurs de braise ardente. Sa bouche s'épanouissait, épaisse, rose, d'un rose de fleurs vénéneuses. Ses narines dilatées humaient avec un continuel frémissement les parfums errants dans la brise qui va de branche en branche, de calice en calice, porter l'amour et la vie. De temps en temps, elle se penchait sur le talus et cueillait des fleurs qu'elle piquait ensuite à son corsage. De sa main migantée de mitaine, avec des mouvements qui révélaient la grâce délicate des épaules et l'exquise flexion du buste, où la femme s'accusait à peine. Sébastien craignit d'avoir blessé Madame Lecotel par son mépris du métier militaire. Il chercha à renouer la conversation subitement rompue. « A-t-on des nouvelles aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Mon père, suivant son habitude, a pris le journal et... je ne sais rien. »« C'est toujours la même chose, » répondit Madame Lecotel. « On dit cependant que la guerre est inévitable. » Madame Lecotel ne croyait pas commettre d'indiscrétion en lisant chaque matin, avant de les remettre au facteur, les journaux qui lui plaisaient. Aussi était-elle au courant de tout ce qui se passait, particulièrement des affaires militaires auxquelles elle s'intéressait par une habitude ancienne et dont elle n'avait pas pu se désaffectionner. « Et tenez, Sébastien, poursuivit-elle, si nous avons la guerre, comme c'est probable, car l'honneur national me paraît trop engagé en cette question. N'aurait-il pas mieux valu que vous fussiez soldat depuis longtemps ?»«
Mais puisque Sébastien a acheté un homme, mère !»
s'écria tout à coup Marguerite. « Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? Il n'en sera pas moins obligé de partir. »«
Alors ?»
fit Marguerite, devenue soucieuse.
« Et l'homme qu'il a acheté ?»
Il partira aussi.
Comment, tous les deux? Mais c'est très injuste, c'est un vol.
Gamine, elle menaça en riant sa mère de son ombrelle.
Dis, petite mère, c'est pour lui faire peur, pas?
Échangeant d'impression,
c'est ça qui doit être beau. La guerre, des hommes et des blessés qu'on soignerait. Des blessés tout pâles et très doux. Oh, je les soignerai bien. »
Le chemin aboutissait à une large allée de vieux châtaigniers. L'allée conduisait à la source de Saint-Jacques, qui alimentait d'eau tout Pervenchère. Ils suivirent l'allée et ils s'arrêtèrent non loin de la source, sur une sorte de tertre, d'où l'on aperçoit entre les massifs de verdure le bourg, tassé, éclatant de soleil. Madame Lecotel s'assit sur l'herbe, à l'ombre d'un arbre. Marguerite chercha des fleurs.
« Sébastien, Sébastien !» appela-t-elle. « Aidez-moi à cueillir un bouquet !»
Un champ de blé était là tout près, qui dardait ses épis et balançait ses pailles dont le vert se dorait de moires soyeuses. Çà et là, des fleurs l'étoilaient de petites taches bleues et rouges. Marguerite entra dans un sillon et disparut presque dans l'épaisseur des blés. Son chapeau seul, fleur énorme et capricieuse, dépassait la pointe mouvante des épis, et son rire, pareil à un chant de bouvreuil, s'égrenait dans les tiges grêles. « Allons, Sébastien, allons !» Sébastien la rejoignit, et lorsqu'il fut près d'elle, celle-ci le regardant de ses yeux graves,
« Tu viendras ce soir là-bas !»
Sa voix était fière, impérieuse, un frisson la faisait trembler. « Marguerite !» supplia Sébastien, sur le visage de qui apparut une double expression de crainte et d'ennui.
« je veux, il faut que je te parle !»
« Marguerite, pense donc, si ta mère te surprenait !» insista Sébastien.
« je veux, tu viendras !»
« Eh bien, oui !» Elle se mit à cueillir des fleurs. Son chapeau plongé dans la mer des épis reparaissait vibrant au soleil, ainsi qu'une petite barque folle pomponnée de nœuds rouges. Et sur son passage scié de rires agiles, les blés remués et froissés faisaient des houles. Elle revint près de sa mère, portant dans ses bras une odorante touffe de fleurs.
« Vois, mère, le beau bouquet, c'est moi qui l'ai cueilli. Toute seule. Sébastien n'a rien cueilli, lui. Il ne sait pas. »
Ça ne m'étonne point, dit Madame Lecotel qui, aidée de sa fille, se releva. On ne lui a pas appris cela au collège, sans doute. Sébastien ne se blessa point de l'ironie de cette phrase. Peut-être même ne l'entendit-il pas. Sa figure s'était rembrunie. L'expression d'inquiétude était revenue, éteignant d'une lueur trouble l'éclair franc de ses yeux. Madame Lecotel, un peu lasse, prononça quelques mots différents auxquels Sébastien répondit à peine. Ils rentrèrent en silence. Seule Marguerite chanta en arrangeant ses fleurs. Monsieur Roch, assis sur un banc dans son jardin près du perron, lisait le journal quand Sébastien passa auprès de lui. Machinalement, entendant du bruit, il leva les yeux sur son fils et les rabaissa aussitôt sur le journal. « Un beau temps !» dit-il. « Oui, un beau temps !» répéta Sébastien. Puis, il gravit les quatre marches du perron et alla s'enfermer dans sa chambre.